21 décembre 1981, cinquième conférence.
Je comprends un tout petit peu la question du victose.
Le victose octanien et le victose aristotélicien. Voilà. Je ne sais pas si dans la thérapeutique même du victose, il y a un peu les deux tendances. Ça, je ne peux pas le dire, parce que je connais un peu le victose comme cela, mais pas suffisamment. Alors, j'aimerais savoir si ceux et celles qui connaissent bien la méthode victose, il y a quelques petits points sur lesquels on pourrait éclairer davantage, vous voyez, au point de vue philosophique. Si ce que j'ai dit est suffisamment net, je reprendrai simplement, en bien précisant, ce que je vois le victose à la manière d'une philosophie occamienne. Nous sommes tous plus ou moins plongés dans Occam, hein, ce que je vous dis à propos du positivisme. Vous comprenez très bien comment, je n'ai pas dit tout à l'heure, et peut-être ça va éclairer ça, je n'ai pas dit tout à l'heure comment Occam est à la naissance du positivisme. Il est à la naissance du positivisme parce que le positivisme, lui, ne regarde que le fait existant. Il ne regarde pas, il regarde le fait existant. Oui, au fond, quand Heidegger revient à l'étang, il revient au positivisme. C'est le positivisme, l'étang, le fait existant. Je reste devant cela. Et au fond, ce fait existant, je ne peux que le mesurer en raison qu'il est divisible, qu'il implique une quantité. Je ne peux que le constater, mais je ne peux pas le connaître vraiment. Je ne peux pas connaître ce qu'il est. Le positivisme veut rester uniquement sur cette connaissance de mensuration. D'où est née la science, vous voyez, moderne, au fond, qui est le point de vue de la mensuration, uniquement. Je connais le fait, je reconnais que le fait existe, et je le connais en fonction de la mensuration. Je ne le connais plus d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire qu'il veut aller plus loin pour ne pas m'arrêter uniquement au fait en disant le nous-mêmes, le fait existant comme tel, je ne le connais pas. Au fond, c'est ma manière, mon intelligence, qui mesure, qui me donne la connaissance du fait. Oubliant que l'intelligence qui mesure donne une certaine connaissance du fait, mais pas la connaissance totale. Elle saisit dans le fait existant son aspect quantitatif. Parce que c'est la quantité qui est divisible. Et en le mesurant, je saisis son divisible. Mais je ne saisis plus ce qu'il est. Et c'est ça le point de vue très important à saisir. Ceci est. Je reste devant le fait existant comme devant une réalité qui m'échappe, que je ne peux que mesurer de l'extérieur. Je la mesure de l'extérieur. Je ne la saisis plus de l'intérieur. Alors vous voyez, ça se voit d'une façon très très nette lorsque je suis en face du vivant. Je mesure le vivant en fonction de ses réactions, mais je ne saisis plus dans le vivant son âme. En comprenant que c'est par l'âme que j'aurai une connaissance intime et profonde de moi-même, et non pas uniquement regardant les faits existants de l'extérieur. Vous voyez ? Alors, c'est là, on voit très bien. Comment il y a une explication aristotélicienne thomiste et occamienne. Parce que Aristote dit simplement que le tauoti est premier. Le tauoti, c'est aussi bien le fait existant que ceci est. Aristote ne connaissait pas encore Occam. Hein. Et Aristote n'a pas été assez prophète par rapport à Occam. Alors quand il dit le tauoti, ça peut se traduire le fait existant où ceci est. Alors, si je traduis le fait existant, je suis en face de Occam et je suis en face de quelque chose que je ne saisis plus dans son être, et je ne saisis plus que dans sa quantité. Et je ne saisis plus que le point de vue, le phénomène de la mensuration qui seul me connaît, me permet de détecter ce qu'il est. Et en réalité, je ne connais plus ce qu'il est. Oui. Et je reste dans la mensuration uniquement. Tandis qu'au contraire, si je... Interprétation de saint Thomas, le toati implique le jugement d'existence. Ceci est. Et donc la mise en lumière au-delà du ceci qui correspond à l'état est. Je veux saisir son être et non pas seulement ce qui est mesurable en lui. Parce que saisir ce qui est mesurable en lui, c'est saisir uniquement ses sensibles communs. Alors, je saisis ces sensibles communs, uniquement le mesurable. Je ne saisis plus les sensibles propres. Pour saisir les sensibles propres, il faut revenir à ceci. Alors, c'est pour ça que je crois qu'on peut dire une double interprétation, voyez, de la conscience que j'ai de la sensation. J'ai une conscience des sensations par le point de vue imaginaire. Le blocage qui se fait entre les deux. À ce moment-là, au fond, je ne saisis des sensations que les sensibles communs. Ou au contraire, j'essaie de comprendre la sensation, prendre conscience des sensations de la manière la plus pure, c'est-à-dire en tant qu'elle se distingue de l'image. L'image, c'est ce que je représente. Et la sensation, je ne me représente rien du tout. Je saisis les sensibles propres. Et je crois que pour saisir ces sensibles propres, faire cette séparation, cette distinction entre les sensations et les images, il faut nécessairement que l'intelligence redécouvre ce qui est. Et alors à ce moment-là, la sensation est comme libérée de l'image et je peux saisir la sensation à l'état pur. C'est pour ça que la saisie de la sensation face au sensible propre va impliquer le jugement d'existence, c'est la conscience du jugement d'existence qui fait saisir l'autre. Tandis que quand je reste dans l'imagination à la sensation, je peux rester dans une perspective imaginaire de la sensation, un certain esthétisme de la sensation par le point de vue d'imagination, et je regarde uniquement l'imagination et je ne suis pas en contact avec l'autre. Oui. C'est pour ça que conscience de la sensation, c'est pas suffisant de dire ça. Conscience de la sensation délivrée de la gande imaginative pour rejoindre le réel. Alors à ce moment-là, c'est la sensation dans sa pureté de sensible propre, et non plus uniquement la sensation liée au sensible commun. Parce que la sensation, elle existe dans les sensibles communs, mais elle n'est pas à l'état pur. Vous voyez, c'est très curieux, parce qu'on retrouve ça dans l'art moderne, n'est-ce pas ? Dans l'art moderne, dans la mesure où l'art moderne veut justement redécouvrir les sensations, les sensibles et l'état pur, en supprimant toute expression. Alors, ils y vont trop loin. Parce que, bon, je crois que dans l'art, il y a un mode de composition qui fait que je ne peux pas séparer. Mais on voit très bien l'intention. C'est qu'on a trop insisté sur la figura, on a trop insisté sur la signification, et on veut redécouvrir les sensibles propres. C'est ça qu'on appelle l'art abstrait. Au-delà de toute figuration. Alors on veut découvrir les sensibles propres. En redécouvrant les sensibles propres, on veut être dans quelque chose de beaucoup plus pur. Alors, au point de vue de l'art, je crois qu'on ne peut jamais séparer les sensibles propres des sensibles communs. On ne peut pas les séparer. Mais on peut, alors là c'est très juste, de mettre que les sensibles communs soient relatifs aux sensibles propres. et que dans tout art véritable, les sensibles communs sont toujours relatifs aux sensibles propres. Et donc ils s'effacent, ils sont vus en dépendance des sensibles propres. Tandis qu'on était arrivé dans un art qui tombait dans les ornières, dans un art qui dépendait de Descartes, parce que tout dépend de la philosophie, ça dépend de la philosophie, on était arrivé à voir que les sensibles propres petit à petit disparaissaient et qu'il restait juste les sensibles communs. Alors à ce moment-là, c'était l'appauvrissement de l'art. Et donc il y a quelque chose d'analogue qu'on ressent très fort aujourd'hui. On ressent très fort ça dans le point de vue. Mais dans le point de vue artistique, ce n'est pas entièrement vrai. Mais dans le point de vue méthode Vitose, c'est juste de réconcilier l'intelligence et les sensations. Alors, allons jusqu'au bout, réconcilier l'intelligence des sensations distinctes de l'imaginaire et qui me met en contact avec l'autre. Ça vous semble juste au point de vue méthode Vitose. C'est ça que j'aimerais. Parce que je. Oui. Deux mouvements de la méthode Vitose. Réceptivité. Je me laisse informer par la sensation, par l'aspect. La concentration, je me porte vers l'objet. Mais dans les deux cas, la sensation me mesure. Je n'aime pas avoir comment l'intelligence dans les deux. Je n'arrive pas à voir comment l'intelligence dans les deux cas peut ne pas être en contact de ceci est. Alors oui, réceptivité. La sensation est toujours profondément une réceptivité. Donc pour qu'on puisse redécouvrir le point de vue de la sensation, le premier moment c'est la réceptivité. Aristote dit que la sensation, c'est un topaskein. C'est pas dire. Alors, à ce moment-là, la sensation est en contact avec le sensible propre. Je me laisse imprégner par le sensible propre. Ça, c'est très vrai. Première manière. Pour redécouvrir la sensation, revenons à la sensation, à l'état naissant. Donc, c'est la réceptivité. Tout à fait d'accord. Oui, c'est le point de vue de la naissance. Peut-être en contact avec le sensible propre dans une attitude de réceptivité. Si je ne suis pas dans cette attitude de réceptivité, jamais la sensation viendra. Je resterai dans l'imaginaire et je construirai ma sensation à partir de l'imaginaire. Donc je serai dans l'hallucination. Parce que le propre de l'hallucination, c'est que c'est à partir de l'imaginaire que se construit la sensation. Je crois entendre des sons. Il n'y a rien du tout. Je suis seul à l'entendre. Il y a côté de moi, on ne voit rien du tout. Je crois entendre des sons. Je crois voir une lumière. Je crois voir une lumière intérieure. Et au bout d'un certain temps, j'en suis tellement persuadé, mais je suis seul à être persuadé. J'en suis tellement persuadé, mais oui, c'est sûr. Et ça ne peut venir que de Dieu. Attention. Ça peut venir de l'imaginaire. Et l'imaginaire, vous savez bien que le démon, hein, il est le prince de l'imaginaire. Et donc l'imaginaire peut être une plateforme par laquelle je suis en réceptivité vis-à-vis de Dieu, une plateforme par laquelle je suis en contact avec le démon. C'est un peu terrible dans l'imaginaire. Non ? Et la bataille se fait. Ça, c'est la tempête de l'arc. C'est plus très très bien. Revenons aux sensations. Ça, les sensations, ce n'est pas le démon qui les a fait. Le démon n'a pas fait que la neige soit blanche. Il n'aurait pas pu inventer ça. Parce qu'il a une horreur du monde sensible. Horreur du monde sensible. Il a horreur de la neige blanche. C'est évident, parce que la neige blanche symbolise des corps glorieux. Et donc, il en a horreur. C'est évident qu'il a horreur de ça. La seule différence, c'est que les corps glorieux, c'est dans la chaleur que la blancheur apparaît, tandis que dans la neige blanche, c'est dans la froideur. C'est la différence. C'est allô, allô. Hein. C'est autre. Mais au fond, c'est la neige blanche, c'est graisse, c'est le revêtement de gloire. Donc, parce que ça permet de faire que tout soit dans la blancheur nouvelle. Alors, on reçoit le premier moment, je suis tout à fait d'accord là, le premier moment c'est la réceptivité. On reçoit la sensation. Le deuxième moment, la concentration. Alors, c'est dans le second moment que ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est le second moment, la concentration. Le second moment, c'est prendre conscience plénière de la sensation. Et alors, dans cette prise conscience de la sensation, voyez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette prise conscience de la sensation peut se faire dans la coupure de la sensation à l'égard du réel. C'est possible. Alors là, je retombe dans un cadre. Ou au contraire, dans le point de vue réel, simple, la sensation me met en contact avec ceci. Mais dans la réceptivité, je ne suis pas en contact avec ceci. La réceptivité, c'est simplement recevoir la sensation. Et dans la concentration, c'est le lien de l'intelligence, concentration, la conscience levée, c'est le lien de l'intelligence avec la sensation qui me relie à ceci. Oui. C'est en ce sens-là que je dis, dans la concentration, il y a le lien avec ceci. Si la concentration se fait en concentration dans la conscience uniquement de la sensation qui ne va plus jusqu'au sensible commun et qui me laisse prendre par une certaine image, alors à ce moment-là, il pourrait très bien se faire que cette conscience ne me conduise plus. Mais alors, ce ne serait plus la méthode Vitose. Oui. Puisque dans la méthode Vitose, la sensation doit me rejoindre avec l'autre, avec la réalité que je sens. Oui. Alors, c'est pour ça que j'explicite en disant la réalité que je sens, l'autre. Et non pas simplement la conscience que j'ai de la sensation qui peut venir de l'imaginaire. Je dis ça simplement pour préciser au point de vue philosophique. Mais que la méthode Vitose indique les deux aspects, alors je n'arrive pas à voir comment l'intelligence dans les deux cas peut ne pas être en contact avec ceci. C'est évident que si on est dans la sensation qui nous relie vraiment au sensible propre, elle applique tout le temps. Ça, je crois. Elle applique vraiment. La sensation ne peut être saisie comme sensation des sensibles propres que si elle est liée au jugement des désirs. Ça, je crois que c'est impossible autrement.
Mais le jugement des désirs, c'est pas thématisé.
Le jugement des désirs, c'est pas thématisé, c'est ouais. Évident, mais c'est pas thématisé. Je peux le prolonger. Vous voyez ? Et je crois que c'est bon de le prolonger. Et je crois que la méthode Vitose ne prend toute sa force que quand on prolonge. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous voyez, je peux le thématiser. Et en le thématisant, je montre que, par la sensation, je saisis l'autre. Tandis que, évidemment, je pourrais uniquement rester dans la sensation des sensibles propres. Le jugement d'existence est présent, c'est bien évident. Je ne peux pas avoir conscience de ça en dehors, mais je peux le thématiser. Et c'est pour ça que je crois que c'est même nécessaire de le thématiser, parce que nous sommes tous plus ou moins contaminés par le karma. Quoi ? Thématiser, ça veut dire formaliser. Hein. Nous formalisons le jugement d'existence. Ceci est. Et à travers la sensation, on atteint l'autre. Parce que l'autre, il n'est donné que dans le jugement d'existence. Il n'est pas donné dans la sensation. Dans la sensation, je colle à l'autre. Je suis un avec lui. Oui. La sensation implique une assimilation du sensible propre. Alors, pour saisir l'autre comme autre, évidemment, le jugement des sens est là pris une façon préliminaire.
Est-ce que les sensibles communs, justement, n'ont peut-être pas toujours quelque chose de transformer dans une
très vite.
Parce que si on regarde la forme, la figure, par exemple,
oui.
La quantité, tout de suite, on...
Oui, très vite, très vite. Très, très vite. Je ne dis pas absolument. Parce qu'il peut y avoir un exercice de l'imagination avec des sensibles propres. Vous voyez ? Alors l'imagination là est canalisée, elle est orientée. Et alors à ce moment-là, il y a un regard sur les sensibles communs qui est vrai. Mais très très vite, parce que l'image met en pleine lumière les sensibles communs. Je vous l'ai déjà dit, hein ? Que l'image met en pleine lumière les sensibles communs. Les sensibles propres deviennent relatifs aux sensibles communs, dans le propre de l'image. Donc c'est vrai que l'imagination tout le temps essaie d'idéaliser. Je crois que tout idéalisme provient de l'imaginaire. Oui. Alors ça on le verra tout à l'heure avec la naissance de la dialectique. Parce que c'est intéressant d'assister à la naissance de la dialectique. Alors pourquoi et comment l'acte volontaire est-il l'aboutissement de la démarche du Vitose? Il est au bout de ces deux mouvements, réceptivité et concentration. Oui, on comprend très bien. Parce que quand je suis en face de l'autre, je peux à ce moment-là poser, je suis dans le réel. Et dans le réel, je peux poser un acte volontaire pour l'action. Oui. Autrement dit, c'est pour mordre davantage dans le réel que je me mets à travailler, je me mets à réaliser un acte volontaire, je me mets à adorer, je me mets, vous voyez, c'est au fond, pour que la volonté puisse vraiment mordre au réel, il faut ce réalisme. Le jugement d'existence est présent, n'est-ce pas, dans tout acte d'amour. Ça, c'est bien évident. Alors, évidemment, c'est une autre activité. Il y a réceptivité, concentration et démarche volontaire. La démarche volontaire vient en dernier lieu, ce qui est normal. Elle vient en premier lieu pour m'obliger à être réceptif. Elle est toujours présente, forcément. Et en dernier lieu, elle est là pour le point de vue de l'action. Pour me réveiller pleinement. Ce que font, c'est une méthode de réveil, la méthode de l'hypnose. C'est de sortir d'une somnolence où je suis habitué à être somnambule dans ma vie. Alors, on veut vous remettre devant le réel concret, le réel que vous sentez tous les jours et à poser ces actes volontaires à partir de là. Donc, réveiller la volonté. Parce que l'imaginaire, dans la mesure où l'imaginaire l'emporte, je ne peux plus avoir contact avec le réel. Et donc, je ne peux plus poser d'acte volontaire. Ma volonté comme inhibée. L'imaginaire inhibe ma volonté, mais complètement. Alors, j'ai la spiritualité de la planche. Je ne remonte plus la source. Hein. Je me laisse descendre le fleuve. C'est plus facile de descendre le fleuve que de remonter à la source. Alors je me laisse descendre le fleuve. Ça c'est la spiritualité de la planche. C'est une volonté qui est annihilée. Je deviens aboulique. Je descends le fleuve. Et pour retrouver l'effort volontaire du Bellé, il faut redécouvrir la réalité. Parce que le bien est réel. Le bien n'est pas imaginatif. Je n'aime pas un idéal. Celui qui aime un idéal... Ce n'est pas une véritable volonté d'amour. Vous voyez ? Un idéal reste imaginaire. Ce que l'aime, c'est une personne. C'est une réalité vivante. C'est cela qu'on aime.
Vous pouvez expliquer le danger alors que pour Descartes, le jugement d'existence est un acte volontaire.
Parfois, c'est évident. Pour Descartes, le jugement d'existence est un acte volontaire.
Alors, expliquez pourquoi.
Pour Descartes, le jugement d'existence est un acte volontaire parce que mon intelligence est enfermée dans mes idées. Je ne peux donc rejoindre le réel que par la volonté. Je ne rejoins pas le réel par la connaissance. Tandis que nous devons rejoindre le réel par la connaissance, l'intelligence est liée à la sensation, jugement d'existence, qui me permet à ce moment-là d'aimer le bien ou d'agir. Parce que la volonté, dans la méthode Vitos, je crois que c'est plus, je ne sais pas là exactement, est-ce que cet acte volontaire est plus du côté de l'action, je crois, que du côté amour. Ça n'a pas tellement d'importance, puisqu'au fond, la volonté peut avoir les deux. Mais ce serait intéressant à préciser de voir si cet acte volontaire, si cet acte volontaire peut être un acte d'amour, donc un acte d'adoration, et je me mets à adorer. Alors, ce serait le vitose religieux, c'est ça, c'est le vitose qui me met à adorer. Je reconnais que j'adore, parce que c'est l'acte volontaire le plus profond, c'est d'adorer. C'est pour ça que la volonté renaît par l'adoration. Ça, nous renaissons à notre volonté par l'adoration. C'est si important de se mettre à constater le réel, être très présent réel, et puis ce réel, mais il y a un réel beaucoup plus profond dans le jugement des sens qui est Dieu. Alors là, je fais appel à la foi, vous voyez, on ne peut pas faire toute la démonstration de l'existence de Dieu. Je fais appel à la foi, donc je fais appel à ce jugement d'existence de foi qui me met là en face, et je commence à aimer, je commence à adorer. Que l'adoration, c'est l'amour premier à l'égard de Dieu. C'est l'amour le plus élémentaire à l'égard de Dieu. Et c'est un amour. Hein. J'aime celui que j'adore. Autrement, je ne pourrais pas l'adorer. J'aime celui que j'adore. Et donc, mon adoration prend tout son réalisme, vous voyez, à partir de ce jugement d'existence. Ça, c'est sûr. Jugement d'existence au niveau de la foi. Mais je peux aussi terminer la métamorphose, achever la métamorphose. Pour ceux qui ne sont pas des croyants, je peux l'achever par le point de vue de la décision. Puisque je suis réveillé, très bien, je vais travailler. Je serai plus attentif à ce que je fais. Je serai plus éveillé à ce que je fais. Alors, le travail, et le travail manuel, parce que c'est celui qui corrige le plus. C'est celui où j'ai le plus la main à la pâte. Mais je peux aussi travailler intellectuellement. Mais à mon travail, l'application. Au fond, l'acte volontaire devient une application au réel que je travaille. Mais il doit pouvoir y avoir les deux. Oui.
Je ne parle pas tellement d'adoration
pour le
coup que je sais.
Non, il ne parle pas d'adoration.
Il parle d'abandon.
Oui, oui. Et l'abandon est la conséquence. Il manque un métaxu. Le métaxu, c'est l'adoration. Pour pouvoir s'abandonner à celui qui est supérieur à nous, il faut adorer. Et je crois que c'est important. Vous voyez, c'est ce qui me semble intéressant à voir. Il faudrait revoir la méthode Vitose dans une lumière philosophique pour sans doute préciser certaines choses que Vitose ne pouvait pas préciser par manque de philosophie. Alors là, ce serait très intéressant, parce qu'alors on redonnerait à l'état de Vitose un réalisme encore plus grand. Oui. Parce que je crois qu'à partir de ce jugement d'existence, si je suis croyant, c'est immédiatement l'adoration. Si je ne fais pas appel directement à ma foi, c'est le travail, l'application volontaire. Oui. D'être capable de réaliser la chose. Bon.
On ne peut pas dire que le chemin d'existence est plus au niveau métaphysique qu'au niveau ontologique.
Que
est plus au niveau ontologique, si vous voulez, de fait, et que la méthode Vitose regarde plutôt la personne dans la mesure où elle la conscience.
La méthode Vitose, c'est une méthode, c'est pas une philosophie.
Voilà, c'est ça, et c'est pas là où on sent un peu le hiatus.
Non.
Quand on compare jugement d'existence et puis la conscience de la méditation.
Je crois qu'il y a... Je dirais, la méthode Vitose, forcément, vous ne pouvez pas demander à Vitose d'être un philosophe et un métaphysicien. Bon, si nous faisons, nous, de la philosophie réaliste, et que nous regardons la méthode Vitose, nous pouvons éclairer la méthode Vitose d'une philosophie, ce qui lui permet d'aller plus loin, de préciser davantage. Mais elle restera toujours une méthode. Elle reste une rééducation de notre réalisme. Sortir de notre cocon imaginatif. Je crois que c'est vraiment ça, la méthode Vitose, c'est sortir de son cocon imaginatif. Donc sortir de cette attitude un peu que nous avons de ne pas être assez éveillé, d'être plus éveillé. Vous voyez ? C'est une méthode pour ça. Et cette méthode réveille, réconcilier l'intelligence et la sensation. Réconcilier l'intelligence et la sensation pour le jugement d'existence. Et à partir de là, pour un réalisme plus grand dans la volonté. Je crois que c'est ça le cheminement. Oui.
Et au niveau du conditionnement,
comme toute méthode. En méthode, c'est l'éducation. Et c'est très important de voir cette application pour comprendre que ce que nous faisons ici au point de vue philosophique a une répercussion immédiate au point de vue pratique. Oui. Et que s'il n'y avait pas cet éclairage philosophique, on tâtonnerait, forcément, comme un médecin tâtonne dans ce domaine-là. Il comprend que c'est ça. Il sait bien que cette chose terrible de séparer l'intelligence de la sensation, c'est terrible parce que c'est donner un appel à l'imaginaire. C'est laisser l'imaginaire prendre toute la place, ordinairement. Alors, il sait très bien, Vitose a senti que l'imaginaire était terrible parce que ça nous empêchait d'être en contact avec le réel. Et enfin, c'est ça l'intérêt. Oui. Alors, c'est d'être une méthode pour redécouvrir le réel et redécouvrir par le fait même une volonté qui ne soit pas une volonté à la manière stoïcienne, à volontarisme, mais une volonté d'accueil au réel. C'est pour ça qu'il dit abandon, vous voyez ? Une volonté d'accueil au réel. Je coopère avec le réel quand je travaille. Et donc, si je ne sais pas ce que c'est que le réel, ou que ce réel, je l'ai en opposition et en haine, je ne peux pas collaborer, je ne pourrai plus travailler. C'est très curieux que quand l'imaginaire s'empare profondément de nous, on ne peut plus travailler. il y a une espèce d'opposition entre le travail et ce qu'on fait. Et cette opposition, elle est malsaine. Elle montre que c'est l'imaginaire qui l'emporte. Il n'y a pas cette espèce de coopération profonde du travail, de l'intelligence de l'homme avec la matière. Oui. Et alors, il permet, par sa méthode, de réconcilier ces choses-là. Une méthode de réconciliation, si vous voulez. C'est vraiment une méthode de réconciliation. Réconcilier la sensation avec l'intelligence, réconcilier l'intelligence avec le réel pour permettre à la volonté de s'appliquer. Bon. Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure pour voir la naissance, hein. La naissance de la dialectique. Alors, ça, c'est très intéressant à voir. Encore l'imaginaire, hein. Vous vous souvenez, nous avions vu cette chose très importante, le passage du jugement d'existence, ceci est, en mettant l'accent sur est, et l'interrogation, qu'est-ce l'être ? Je crois ceci très important. C'est le premier pas de mon intelligence métaphysique. S'il n'y a pas le jugement d'existence, il n'y a pas possibilité d'une philosophie réaliste et d'une métaphysique. Et s'il n'y a pas l'éveil de l'intelligence en interrogeant qu'est-ce que c'est que l'être, je n'avancerai pas. Je resterai ceci est. Et Vitos ne conduit pas à la métaphysique, c'est là où on voit la différence. Il est une méthode pratique dont il conduit à l'action. Tandis que nous, par le jugement d'existence, nous conduisons à la métaphysique. C'est la différence. C'est un vitos métaphysique. N'est-ce pas ? On conduit à la métaphysique, on conduit à l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être ? Pour libérer le nous. Au fond, vitos voudrait libérer le point de vue de la volonté qui accroche à la réalité. Nous voulons libérer l'intelligence. C'est deux aspects différents. Bon, alors, ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être entre deux, l'admiration, ce que nous avons vu, l'admiration à l'égard de cette affirmation, ceci est, cette chose très étonnante, que ceci est ordonné à être. Ce dépassement de la grammaire, ce dépassement de toutes les catégories, on aperçoit qu'en affirmant ceci est à ce pouvoir extraordinaire d'unifier tous les ceci. Tous les ceci sont dépassés par être. Et parce que tous les ceci sont dépassés par être, qu'est-ce que c'est que l'être ? La mise en lumière de être par être. Je crois que ça, nous pouvons assez facilement le saisir, nous saisissons peut-être mieux maintenant, parce que nous avons insisté davantage sur le jugement d'existence. Alors, cette phase est très intéressante, cette phase d'admiration, c'est là où vous avez dit, on pourrait peut-être placer là une certaine intuition de être. C'est vrai, parce que c'est quand même très étonnant de voir que mon intelligence, saisissant la réalité dans ce cas-là profond, se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Elle acquiert progressivement une espèce de connaissance de ce être et de toute sa valeur propre, au fond du verbe, si vous voulez. Elle comprend l'importance du verbe. Pas seulement du verbe hein, au point de vue grammaire, mais du verbe au point de vue de sa signification, de sa super signification. Vous voyez, puisque je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui disent dans la philosophie analytique ceci est ou ceci, c'est la même signification. Et donc on acquiert progressivement cette super signification du est. C'est vrai que est ne signifie rien. Ça n'ajoute rien à ceci, et ça donne tout. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas de l'ordre de la signification, c'est de l'ordre d'autre chose. C'est une super signification. C'est une sur-signification. C'est peut-être ce qu'il faudrait dire aujourd'hui. Une sur-signification, on aime mieux de mettre des choses comme ça. Une signification qui atteint une trans-signification, une signification qui est au-delà de la signification. et qui est source de toute signification. C'est très curieux. Vous voyez, notre langage n'est pas fait pour ça. Notre langage est fait pour la signification. Notre langage est catégorial. Tandis que là, je suis au-delà des catégories, puisque tous les ceci qui me donnent des catégories, sont dépassés par elles. Donc je suis transcatégorial, je suis au-delà de la signification. Super signification. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, vous comprenez que ce que nous avions vu, nous avions dit que la signification, cette super signification de être, et cette super signification de être, est la même. Je crois ça capital, hein, si on veut progresser, c'est-à-dire si on veut revenir à l'induction. Parce que si la super signification de être est autre que celle de « est », je ne peux plus revenir de là à la réalité connue, à la réalité expérimentée. Puisque si « être », cette super signification de « être » est distincte du « ceci », je ne peux regarder cette super signification de « être » que dans sa source. Et sa source devient le « nous », devient l'intelligence. C'est l'intelligence qui a donné à être sa signification propre. Ça, il faut bien me voir. Hein. Si vous ne me voyez pas, il faut me le dire, parce que je crois que c'est capital de comprendre ça. Parce que c'est à partir de là que va naître la dialectique. Si, comprenez bien, si la super signification de être est distincte de celle du ceci est. Je ne peux donc progresser dans la signification de l'être qu'en retournant sur mon intelligence, source de mon interrogation. Donc en retournant sur mon esprit, source de la signification. Je me coupe du réel, forcément, puisque le ceci est me met en contact avec le réel. Je me coupe du réel et je me mets à réfléchir sur le processus de mon intelligence. Et je vois que mon intelligence a tout de suite comme processus que le processus de la division, c'est par la division que je crois. C'est par la division que je vais plus loin. Je divise toujours pour connaître mieux. La guerre est la père de toute chose, hein, la fameuse parole d'Héraclite, qui est au cœur de toute la philosophie hegélienne. Et qui est au cœur de tout le marxisme. La guerre est le père de toute chose. Il faut la guerre pour progresser. S'il n'y a pas la guerre, on ne progressera pas. Dans les situations de tension, il n'y a pas d'autre issue. C'est tout le temps comme ça. C'est ça le danger du marxisme. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. On peut pas. Alors on divise. Quelle est la division propre de l'esprit ? La division propre de l'esprit, c'est l'affirmation et la négation. Donc, mon esprit, pour découvrir davantage la signification de l'être, va se développer sur lui-même, en affirmant et niant, en affirmer l'être, le non-être. Le premier moment de la dialectique est venu, être et non-être. C'est la naissance même de la dialectique. Vous voyez cette chose très curieuse, hein? C'est intéressant, du reste, à saisir ça. Être et non-être. Quand il est pris dans cette position hegélienne, vous comprenez que mon intelligence, capable d'affirmer et nier, donc mon nous, capable d'affirmer et nier, est donc au-dessus de l'affirmation et la négation. Je considère l'affirmation et la négation par rapport au nous. Et le nous est au-dessus. Si le nous est au-dessus, il se sert de l'affirmation et la négation pour faire la synthèse. J'affirme l'être et le non-être et j'en donne la synthèse. Mais la synthèse, elle ne peut être que dans le nous. Et elle ne peut être que dans le progrès du nous. Que dans le devenir du nous. Pas autre chose. C'est donc le progrès du nous qui fait la synthèse de l'affirmation et la négation. Et donc je m'enferme dans le progrès, dans le devenir du nous. Et toute la dialectique n'est pas autre chose que le devenir de l'intelligence. C'est très curieux, ça, c'est très curieux. Alors ce phénomène, vous comprenez, provient de l'aspect imaginatif. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à cause de l'imagination que c'est possible. Mais avant de regarder ça, je montre tout de suite que normalement, l'affirmation et la négation sont relatives à être et non-être. Quand j'affirme ceci est, mon affirmation regarde ce qui est. Quand je nie ceci n'est pas, mon affirmation s'enferme sur la réalité que je nie ceci n'est pas. Comme la réalité n'est pas, donc je m'enferme sur moi-même. C'est forcé. L'affirmation m'ouvre à la réalité, la négation me ferme sur moi-même. Celui qui nie avant d'affirmer s'enferme sur lui-même. Celui qui nie pour aller plus loin dans l'affirmation progresse. Et vous voyez bien, normalement, l'affirmation est objective et la négation est subjective. Ben, je crois que c'est assez facile à comprendre. L'affirmation, vous donnez la main à la réalité, quand vous niez, vous avez cette supériorité énorme de vous affirmer vous seul. Le propre de la négation, c'est de s'affirmer. Ça, quand on a très peur, on nie tout de suite, pour s'affirmer. C'est un signe, c'est un signe de détresse. On nie, pour s'affirmer. Vous vous affirmez comme ça. Parce que, au moins, vous êtes le seul à exister. Quand vous niez, rien d'autre n'existe que moi. Rien d'autre n'existe. Donc, la négation exalte le sujet affirmant. Alors, normalement, quand l'affirmation est première, la négation est au service de l'affirmation. Elle est seconde. Mais quand la négation est première, parce que c'est ça qui est terrible dans la dialectique, c'est que la négation est première. Quand la négation est première, vous comprenez que c'est l'exaltation du sujet. Vous n'avez rien qui spécifie. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez la subjectivité transcendantale. Et c'est la subjectivité transcendantale qui est au cœur de toute la dialectique. Pas possible autrement. C'est toujours la négation qui est première. Thèse, antithèse, synthèse, on devrait dire antithèse, thèse, synthèse. En réalité, c'est comme ça. C'est l'antithèse qui est toujours avant. C'est toujours la négation qui est avant. Et la négation fournit le point de vue de l'affirmation. Et l'affirmation naît à partir de la négation, parce qu'elle est subjective. Oui. Alors ça, je crois que ça nous fait comprendre la naissance de la dialectique. C'est pas très commode à comprendre, puisque c'est une inversion de la vie de l'intelligence. À la place de regarder l'intelligence portée vers ce qui est, la phrase de « primo cadit in intellectus ens », il faudrait dire primo cadit in intellectus non ens. Voilà ce qui est au cœur de toute la dialectique. Primo cadit in intellectus non ens. Alors, non cadit, hein, le non-être, ça ne tombe pas. Mais alors, on pourrait dire primo, je ne sais pas, ce que l'intelligence crée en premier lieu, c'est le non-être. Parce que c'est une création de l'intelligence, le non-être. Le non-être est un être de raison. Ça n'existe pas dans la réalité. Vous n'avez jamais rencontré le non-être. Si vous l'avez rencontré, vous auriez eu très très peur. Le non-être, c'est la création de l'intelligence. C'est l'intelligence qui crée le non-être. Et donc la première chose que l'intelligence crée, c'est le non-être. Alors là, vous avez l'opposition diamétrale de saint Thomas, primo cadit in intellectus. Eh bien, dans toute dialectique, on peut dire qu'il y a ça. Alors, c'est pas exprimé, mais c'est réel. Primo, la première chose que l'intelligence crée, c'est le non-être. C'est très curieux, vous voyez. C'est en ce sens-là qu'il y a une inversion par rapport à la pensée théologique. Et Aristote disait cette chose curieuse, Ce sont les théologiens qui les ce sont les théologiens qui affirment en premier lieu le non-être. Ce sont les théologiens. Pourquoi ? Parce qu'Aristote pensait au premier théologien, c'est-à-dire Hésiode, et qui voyait la généalogie des dieux. Alors, pour voir la généalogie des dieux, il faut voir d'abord que les dieux n'existent pas. Comment les dieux ne sont pas engendrés. Et donc, les théologiens affirmaient en premier lieu le non-être. Eh bien, c'est exactement ce que Hegel fait. Il affirme en premier lieu le non-être. Ce théologien refoulé, parce que c'est le refoulement de la théologie, qui fait qu'alors en premier lieu, on prend le point de vue de la création du non-être. Alors, vous voyez que tout provient initialement de ce fait qu'on considère que dans l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», la signification, la super-signification de l'être n'est plus en relation avec le ceci. Et comment on est arrivé à cela ? Alors maintenant je pose comment on est arrivé à cela ? C'est assez facile à comprendre. Comment on arrive à ça ? C'est que, justement, le mode concret et le mode abstrait, le mode concret et le mode abstrait, ce sont des maudits significandi. Ce sont des modes de signification. Saint Thomas qui aime dire ça, le modus significandi. Ce sont des modes de signification. C'est de fait dans mon intelligence et par mon intelligence que je vois un mode concret, un mode abstrait. Évidemment, dans la réalité, vous n'avez jamais vu un mode abstrait. Vous ne voyez que des modes concrets. Vous ne voyez que des réalités singulières. Le mode abstrait, c'est l'intelligence qui le crée. Blanc, blancheur. La blancheur du mur n'existe que dans mon intelligence. Tandis que le blanc du mur, il existe dans la réalité. Donc le mode abstrait, c'est ce que mon intelligence crée. Mais mon intelligence crée ce mode abstrait pour mieux connaître la forme, pour mieux connaître l'être. Ce mode abstrait provient du mode concret. Ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Si je n'avais pas posé...